20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est à Venise que nous nous évaderons ce soir en compagnie d'Anastasia Kobekina, dont le nouvel et formidable album est conçu justement comme un voyage dans la ville de Monteverdi, de Sartorio, de Vivaldi et de tous ceux qui l'ont tant aimé à travers les siècles jusqu'à nos jours. L'un de ses albums concept, comme la violoncelliste aime les imaginer avec la sensibilité et ce goût du métissage qu'on aime tant chez elle. Avant cela, avant de la retrouver à notre micro, jetons un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. John Elliott Gardiner repousse son retour sur scène en renonçant à diriger son chœur et son orchestre Monteverdi durant la tournée européenne qui débutera à Barcelone le 20 mars et fera étape à Versailles le 24, mais aussi pour une série de concerts dédiés aux 9 symphonies de Beethoven au mois de mai à Londres et à Paris. Son altercation avec un chanteur qu'il avait giflé et insulté l'été dernier au festival Berlioz de la Côte-Saint-André l'avait contrainte à renoncer à tous ses engagements jusqu'à la fin de l'année. Un retrait accompagné d'excuses que le chef anglais a donc choisi de prolonger. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Suite à l'annonce d'une baisse inédite de 2,5% de sa subvention qui entraînera un arrêt de recrutement, une diminution du nombre de concerts et de productions, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg se mobilise à travers ses musiciens et son directeur Aziz Sourakimov. Un tract a ainsi été distribué au public accompagné d'une pétition en ligne appelant chacun à les soutenir face à cette décision de la ville qui concerne également l'Opéra du Rhin. Les effets s'ils se ressentent déjà dans notre programmation de cette année, ne feront que s'accentuer pour les saisons prochaines et sont source d'une grande préoccupation, écrivent les musiciens, rappelant que leur orchestre, avec ses 160 ans d'histoire, est à la fois un service public culturel qui remplit ses missions sociales et artistiques sans faillir, mais aussi un patrimoine vivant, ancré dans le paysage local et national. Ben Glasberg retrouvera cette semaine ses musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen pour deux concerts, vendredi et samedi. Deux concerts qui mettront en regard Beethoven et Louise Farinck, une compositrice dont l'œuvre connaît depuis quelque temps une véritable renaissance. C'est sa troisième symphonie que dirigera le chef anglais. Une symphonie d'une grande énergie, d'une grande puissance qui répondra ici au concerto pour violon de Beethoven avec en soliste la violoniste Francesca Dego. Un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique et diffusé le 10 mars sur notre antenne. Ben Glasberg avait déjà inscrit une compositrice au programme d'un précédent concert dont nous avions pu profiter également sur Radio Classique. C'était l'américaine Florence Price dont il avait dirigé une ouverture. C'était en octobre 2022. Quelques notes d'une ouverture de Florence Price faisant référence au gospel par Ben Glasberg et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie en concert. C'était en octobre 2022 sous les micros de Radio Classique. Ben Glasberg qui dirigera une symphonie de Louise Farinck et le concerto pour violon de Beethoven avec ses mêmes musiciens vendredi et samedi à l'Opéra de Rouen.
Laure Maison sur Radio Classique.
Son précédent album, Ellipse, témoignait déjà de son goût pour les métissages, les rencontres, les croisements entre les styles et les époques, entre la musique baroque et la musique d'aujourd'hui notamment. Anastasia Kobekina fait son retour au disque chez Sony cette fois-ci, et avec un programme tout aussi pertinent et passionnant, imaginé comme un voyage à travers le temps dans la ville de Venise. Anastasia Kobekina qui est avec nous ce soir depuis Venise, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, on va parler de Venise, alors que vous êtes à Venise en ce moment. Qu'est-ce que vous ressentez, justement, en tant que musicienne, lorsque vous êtes dans cette ville?
Oh, pour moi, c'était une rencontre très personnelle. J'étais très émue par l'esprit de cette ville. Et j'adore toujours, quand je reviens ici, ces premiers moments de revoir cet endroit, parce que pour moi c'est comme une personne, c'est un caractère de ville qui me fascine chaque fois et qui change aussi pendant la journée, et tous ces visages différents de cette ville et qui j'ai voulu simplement de revenir dans ma imagination encore quand je veux. Et je pense que de notre sensation, l'écoute à cette force de faire venir les souvenirs. Et oui, j'ai cherché la musique qui m'a transportée dans cet endroit quand je veux.
Voilà, et des musiques particulièrement colorées, contrastées. Vous faites référence, Anastasia Kobekina, à Venise comme un personnage, mais un personnage aux multiples facettes, comme on peut en tout cas l'entendre dans cet album. On peut faire le parallèle avec l'idée de se déguiser, revêtir justement des habits différents, puisque Venise, c'est la ville du carnaval, d'où cette idée aussi de contraste.
Oui, c'est vraiment une palette incroyable de carnaval, l'atmosphère de nuit qui vraiment va faire la frisson parfois quand on se perd dans les petits coins et dans ces labyrinthes de cette ville. Et c'est vraiment le visage, des masques différents, on peut dire. Mais c'est aussi pas seulement une ville historique pour moi, c'est aussi moderne, avec l'art, la Biennale qui est vraiment le cœur de l'art dans cette ville. Et c'est tellement vivant, c'est pas que postcarte.
Thank you. S'il est un compositeur que l'on associe tout naturellement à Venise, c'est bien Vivaldi qui est au cœur de votre album, Anastasia Kobekina, dont vous avez enregistré plusieurs concertos et extraits de concertos, comme ce concerto RV 405. Vivaldi, c'est l'un des premiers compositeurs à avoir d'ailleurs mis en avant ses qualités virtuoses et lyriques de votre instrument, le violoncelle.
Oui, bien sûr. C'est aussi la signature de Vivaldi qu'il a mis dans les concerts de violoncelle. Et bien sûr, il est plus connu par les concerti de violon. Mais il a écrit 40 concerts pour violoncelle et j'ai pris les mes préférés. Et ce que j'adore particulièrement dans cette musique, c'est vraiment presque cette sensation physique qui met donc les patterns répétitifs et le rythme qui porte moi et toute l'orchestre de tous les musiciens dans un rythme, dans une danse. Je ressentis ça très fort pendant l'enregistrement parce que avec l'orchestre de chambre de Basel, on n'a jamais joué ce programme et c'était vraiment les moments intenses pendant l'enregistrement quand on a cherché pour les couleurs, pour les pulses et pour les impulses, pour les couleurs qui on peut transmettre tous ensemble. Et oui, dans la musique Vivaldi, il a 300 ans qui nous séparons avec lui, mais l'énergie, le rythme, ça trouve les réponses, l'écho tellement fort dans nous, humains d'aujourd'hui.
En tout cas, une vivacité, une fougue que l'on perçoit dans votre enregistrement, Anastasia Kobekina. Sur quel instrument jouez-vous ? C'est un instrument ancien ?
Oui, j'ai utilisé deux instruments pour cet enregistrement, un avec les boyaux et un autre avec le cornes en métal. Un des instruments, c'est un Stradivarius de 1698 et l'autre, c'est aussi italien, c'est un violoncelle de Scarampella qui est un peu plus jeune.
Alors, vous avez mis en avant dans ce programme d'autres compositeurs vénitiens. Venise, c'est bien entendu la ville de Vivaldi, mais aussi de Sartorio, ou encore de Barbara Strozzi, compositrice, l'une des premières compositrices finalement de l'histoire de la musique, que l'on connaît en tout cas.
Oui, c'est fascinant de penser qu'on a cette trésor de cette époque écrit par la femme et publié par la femme parce que c'est étonnant que c'était possible dans l'époque. Et bien sûr, cette aria qui est dans l'album, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est aussi les questions, qu'est-ce que je peux faire ? Je trouve cette question aussi moderne aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, Anastasia Kobekina, caractériser la musique vénitienne de cette époque ? Qu'est-ce qui fait que quand on entend cette musique, on sait qu'elle a été écrite à Venise, la musique de l'époque de Strozzi, de Monteverdi ?
Je trouve que c'est bien sûr les instruments, comme dans cet album, il y a harpsichorde et luth, théorbo très présent. Et pour moi, c'est vraiment le jeu de ces musiciens qui fait partie de l'orchestre de chambre de Basel, qui apportait cette l'ambiance de l'époque avec bien sûr le rythme, mais aussi les appoggiatures. Et toutes les décorations autour le lien de mélodique. Ce qui, ça, pour moi, aussi, dans, autant que pièce de Strauss, mais aussi dans Vivaldi, les mouvements longs ou mouvements rapides, c'est vraiment cette, l'atmosphère qui luth et harpsichorde apportent.
Alors, dans cet album, vous associez, on le disait, des musiques baroques à des musiques de différentes époques, romantiques et modernes. Comment avez-vous imaginé ces croisements entre les compositeurs d'hier et ceux plus modernes? Ce sont tous des compositeurs qui ont des liens avec Venise, qui ne sont pas forcément italiens, mais je pense par exemple à Britten ou Forêt. Ce sont des compositeurs qui ont été touchés, qui ont été inspirés par Venise.
Oui, exactement. C'est peut-être c'est une collection des pièces dans l'album n'est pas constituée de faits historiques ou des choses, des lignes droites, mais c'est constitué de impressions, de des moments de souvenirs personnels pour moi. Et je cherchais par exemple Britten, il a écrit cette barcarolle qui apporte cette l'effet de gondola, des vagues. Oui, il y a d'autres compositeurs qui peut-être pas directement connectés à Venise, mais ça m'a parlé. Et mais il y a toujours un fil très fin qui s'étire de cet endroit. Par exemple, dans Caroline Shaw, c'est Pizzicato qui est aussi un écho de luth ou de orbe d'accompagnement. Seulement les noms de cette pièce, Limestone and Felt, c'est quelque chose qui m'a parlé directement juste avant que j'écoute cette pièce.
Et puis il y a cette sublime mélodie, les berceaux de Forêt, qui est une berceuse, mais qui est aussi quelque part une barcarolle, qui ressemble à une barcarolle.
Oui, dans cette mélodie, le texte, ça se parle de des matroses qui partent dans la mer, donc c'est aussi connecté avec, peut être reflété le lieu de Venise. Et on a essayé de prendre cette pièce et le mettre un peu dehors de la cadre de temps. Originel, c'est écrit pour voix et piano. Et sur l'album, vous attendre pour violoncelle baroque et moderne et un luth.
Thank you.
Les berceaux de forêt, un nouvel extrait de ce superbe album dédié à Venise, album de la violoncelliste Anastasia Kobekina, accompagnée ici au Théorbe par Azul Lima. Anastasia Kobekina qui est avec nous ce soir depuis Venise, justement. Alors ce programme dans lequel on se plonge, il met à l'honneur des compositeurs de différentes époques. Il vous permet donc de varier les couleurs de vos instruments, puisque vous jouez de deux instruments différents, les couleurs des accompagnements, puisque vous variez aussi les accompagnements, les effectifs qui jouent à vos côtés. Vous parlez souvent de couleurs, ces différentes palettes sonores, c'est quelque chose d'essentiel qui vous porte, qui vous inspire.
Oui, je suis toujours en recherche des variétés, mais bien sûr, la voix humaine, c'est quelque chose de richesse incroyable qui je toujours essaie d'approcher un peu plus avec mon instrument ou des instruments que je joue. Et je suis fascinée par la variété des voix humaines, par puissance d'expression. Nous, chaque humain, notre discours quotidien, et c'est aussi une mélodie. Et quand on chante pour soi-même dans les moments très privés, c'est vraiment cette richesse de détails qui transmettent les émotions. Et ça, ce qui m'a fascine. Et on trouve aussi sur cet album beaucoup de pièces écrites originelles pour voix. Et c'est mon un petit challenge personnel de faire jouer sur violoncelle.
Alors c'est vrai que dans cet album, il y a toute une palette de couleurs, de merveilleuses couleurs, beaucoup de contrastes, puisque ce sont des compositeurs de différentes époques. Est-ce que vous avez pensé en même temps à une forme d'intemporalité, ou est-ce que lorsque vous passez de Vivaldi à Caroline Shaw, par exemple, vous avez vraiment l'impression d'être très différente?
Oui, je pensais que... Comme à Venise, on peut vraiment se perdre dans les labyrinthes de rue et faire notre carte imaginaire de cet lieu. C'est aussi dans les musiques, dans l'album, je prends liberté à faire mon portrait de cet endroit, une capsule des impressions très différentes. Et oui, c'est aussi l'essai de dire que la musique, ça reste quelque chose de très humain, qui parle à nous dans l'année 2024, qu'il y a 400 ans ou 300 ans. L'essence de musique, ça ne change pas. C'est écrit par les humains pour les humains.
Alors votre album, Anastasia Kobekina, comme le précédent, il s'achève avec une pièce de votre père, le compositeur Vladimir Kobekine, qui a composé une série de variations sur une lamentation de Claudio Monteverdi. Il l'a composée pour vous, pour cet album?
Oui, exactement. J'ai ce privilège de commander ou faire intéresser mon père à des projets. Et oui, j'ai proposé à lui de faire ce qu'il veut sur cet album. Et il a choisi Lamento de Ariadna de Monteverdi. Et il a vraiment il a pris cette mélodie et transformé en une suite de lamento qui vraiment... Pour moi, c'est une profondeur incroyable parce que, au premier, déjà, je connais bien l'écriture, les langages de mon père. Je sens sa musique vraiment sur mon peau. Et cette 4 heures d'enregistrement, c'était vraiment une expérience musicale peut-être les plus intenses que j'ai vécu. Oui, j'essayais de pousser mais émotionnellement jusqu'à frontière de tragique et presque de folie. Parce que lamento, le cri, c'est quelque chose très profondément humain.
Voilà, donc ce Lamento de Vladimir Kobekin, de votre père, conclut ce magnifique album Venise, qui vient de paraître chez Sony, nouveau label pour vous, Anastasia Kobekina. Alors, vous avez de très nombreux concerts en ce moment en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne. On est très jaloux, nous, Français, puisque pour l'instant, pas de rendez-vous en France. Est-ce qu'il y aura quelques dates ?
Oui, la première date, c'est dans mon cher festival Versioise. Ça serait au programme d'album. Je vais avec l'orchestre de chambre de Bâle. Et c'est fin juin qu'on joue ça dans le cadre du festival de Versioise, dans cette magnifique église. Oui, j'ai hâte de partager ce programme parce que... Oui, c'est une chose tellement différente de jouer pour une salle vide pendant l'enregistrement et faire sonner ce programme dans une église, faire cette communication avec le public, vivre ces moments ensemble.
Voilà, ben on a hâte de vous entendre. En attendant, on se régale à l'écoute de cet album. On va se quitter avec de nouveaux extraits, avec une brève pièce de Nino Rota, musique composée pour le film Casanova de Federico Fellini. Casanova, figure emblématique de Venise. Et juste après, cette magnifique pièce de Barbara Strozzi. Merci beaucoup, Anastasia Kobekina.
Merci, Charles. C'est quel plaisir de parler avec vous.
Et même nous aussi, merci beaucoup. Thank you. Un extrait de la musique du film Casanova de Fellini, musique de Nino Rota, et à l'instant un air Che si può fare de la compositrice vénitienne Barbara Strozzi, deux nouveaux extraits de ce superbe album Venise de la violoncelliste Anastasia Kobekina avec l'orchestre de chambre de Bâle dirigé par Julia Schröder, un album tout juste sorti chez Sony. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambrière pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Mathieu Herzog, mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.